Le livre de Daniel, numéro 76. Dévoilement des prophéties. Le rejet de la lumière en 1856 et ses conséquences.
En 1600, la lumière des sept temps fut dévoilée et en 1863, cette lumière fut rejetée. Le prophète de Juda apporta la lumière au roi impie Jéroboam et Jéroboam rejeta la lumière. Ésaïe apporta la même lumière au roi impie Achaz et lui aussi rejeta la lumière. Pour avoir refusé la lumière associée à la piscine de Shiloa, les royaumes de Jéroboam, du nord, et d'Achaz, du sud, furent emmenés en captivité par un roi du nord, en 703-3 avec Jésus-Christ et 667 avec Jésus-Christ respectivement. Moïse, lors de la rébellion d'Aaron, Ésaïe avec Achaz et Jérémie avec d'autres rois, représentaient les fidèles de l'histoire millérite, qui représentaient tous les messagers de la lumière dans la rébellion des derniers jours. La première crise des derniers jours de 1863 et la dernière crise des derniers jours du grand tremblement de terre du chapitre 11 de l'Apocalypse, la loi du dimanche imminente, sont représentées par toutes ces lignes prophétiques. Le prophète de Juda représente un prophète qui s'est détourné de sa responsabilité et finit enterré dans la même tombe que le protestantisme apostat. Sa mort et son ensevelissement furent la conséquence de son choix de manger et de boire la nourriture du prophète menteur de Bethel. Le jugement d'être vaincu par la papauté, le roi d'Assyrie, au moment de la loi du dimanche, qui fut préfiguré par la dispersion des royaumes du nord, Jéroboam, et du sud, Achaz, s'accorde avec le sort du prophète de Juda, car il mourut entre un lion et un âne. Le lion est le symbole de Babylone, qui, dans les derniers jours, est la papauté.
Et il arriva, après qu'il eut mangé du pain et après qu'il eut bu, qu'il lui scella l'âne, à savoir pour le prophète qu'il avait ramené. Et comme il s'en allait, un lion le rencontra en chemin et le tua. Et son cadavre fut jeté sur le chemin, et l'âne se tenait près de lui. Le lion aussi se tenait près du cadavre. Et voici, des hommes passèrent et virent le cadavre jeté sur le chemin, et le lion debout près du cadavre. Et ils vinrent le raconter dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui l'avait ramené du chemin l'apprit, il dit « C'est l'homme de Dieu qui a été désobéissant à la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur l'a livré au lion, qui l'a déchiré et tué, selon la parole du Seigneur qui lui avait dite. » Et il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne. » Et ils le scellèrent pour lui. Et il partit et trouva son cadavre jeté sur le chemin, et l'âne et le lion se tenant près du cadavre. Le lion n'avait pas mangé le cadavre, ni déchiré l'âne. Et le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le mit sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète revint à la ville pour le pleurer et l'enterrer. Et il déposa son cadavre dans son propre tombeau. Et l'on mena deuil sur lui en disant « Hélas, mon frère !» Et il arriva, après qu'il eut enterré, qu'il parla à ses fils, disant « Quand je serai mort, enterrez-moi dans le sépulcre où l'homme de Dieu est enterré. Placez mes os auprès des siens. » Car ce qu'il a proclamé par la parole du Seigneur contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie s'accomplira sûrement. 1 Rois 13:11-32.
Le prophète de Juda mourut entre deux symboles. Le lion est un symbole de Babylone, et la Babylone moderne dans les derniers jours est le roi du Nord, qui arrive à sa fin sans que personne ne lui vienne en aide dans Daniel chapitre 11, verset 45. La marque de son autorité est le culte du soleil, qui est la quatrième abomination. Dans Ézéchiel, chapitre 8, la quatrième génération de l'adventisme laodicéen y est représentée comme se prosternant vers le soleil. Dans le rêve de Miller, il lui fut montré que non seulement les joyaux furent dispersés et recouverts, mais aussi que le coffret lui-même, qui représentait la Bible, fut mis en pièces. Dans la troisième génération de l'adventisme, l'œuvre consistant à introduire l'usage des soi-disant traductions modernes de la Bible a été promue par la direction de l'adventisme. Ces soi-disant traductions modernes provenaient d'un ensemble de manuscrits corrompus, promus par les théologiens de l'homme du péché et par le protestantisme apostat. Le coffret de Miller était la version King James, traduite à partir de manuscrits non corrompus. À la quatrième génération de l'adventisme laodicéen, l'Église avait rejoint le Conseil œcuménique des Églises, une confédération de l'Église romaine et de ses filles. Pendant des années, pour le bénéfice de leurs troupeaux endormis, les adventistes ont soutenu qu'ils n'étaient que de simples observateurs au Conseil œcuménique des Églises, jusqu'à ce que les statuts de cette confédération maléfique révèlent que le statut d'observateur équivaut à celui d'un membre votant à part entière. À leur quatrième génération, ils ont, à deux reprises, décerné une médaille d'or à l'homme du péché. Au moins l'une des médailles était gravée, selon la compréhension catholique, de la seconde venue du Christ, représentant Jésus posant son pied sur la terre à son retour, et elle comportait un halo solaire catholique derrière le Christ, ainsi que l'abrégé catholique du quatrième commandement, qui se contentait de dire « Souviens-toi du sabbat ». Lors d'une procédure judiciaire, qui est une déclaration légale, le président de la conférence décentrale a témoigné que l'Église adventiste du septième jour croyait autrefois que la papauté était l'antéchrist, mais que son Église avait depuis longtemps relégué cette croyance aux poubelles de l'histoire. La quatrième abomination, génération, est celle où les 25 dirigeants de l'Église de Jérusalem se prosternent devant le soleil. Les abominations progressives ont commencé avec l'image de la jalousie qui avait été dressée à l'entrée, marquant le début. Le prophète de Juda finit par être enterré avec le protestantisme apostat, et le lion, Babylone, le tue, car il est revenu à la méthodologie du protestantisme apostat et est donc incapable de reconnaître que c'est Rome qui établit la vision. Et là où aucune vision n'est établie par le symbole de l'homme du péché, on finit en fin de compte du côté de l'homme du péché.
Ceux dont la compréhension du mot devient confuse, qui ne voient pas la signification de l'antéchrist, se placeront assurément du côté de l'antéchrist. Collection Cresse, 105.
Le prophète de Juda a été enterré avec le prophète menteur de Bethel, qu'il avait identifié comme son frère, et il a été retrouvé mort entre deux symboles. Le lion représentait son incapacité à comprendre l'antéchrist, et l'âne est un symbole de l'islam. L'adventisme laodicéen a déjà démontré, par son silence au sujet du 11 septembre 2001, qu'il ne reconnaît pas que le sujet de l'islam du troisième malheur est le message du cri de minuit, de la pluie de l'arrière-saison. Ne pas reconnaître le message de la pluie de l'arrière-saison, c'est la mort. La pluie de l'arrière-saison a commencé le 11 septembre 2001, lorsque le puissant ange d'Akolekilefi 18 est descendu et que les grands bâtiments de la ville de New York ont été renversés. La pluie est un message, et il faut reconnaître ce message pour le recevoir.
Nous ne devons pas attendre la pluie de l'arrière-saison. Elle vient sur tous ceux qui sauront reconnaître et s'approprier la rosée les ondées de la grâce qui se répandent sur nous. Lorsque nous recueillons les parcelles de lumière, lorsque nous apprécions les grâces fidèles de Dieu, qui aime que nous nous confions dans lui, alors chaque promesse s'accomplira. Ésaïe 61:11, cité. Toute la terre doit être remplie de la gloire de Dieu. Commentaire biblique adventiste du septième jour, volume 7, 984.
La terre entière sait ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Mais pour recevoir le message qui commence là, et qui, en fin de compte, illumine toute la terre de la gloire de Dieu, il faut que ce message soit reconnu. Le mot « recognize » signifie « se remémorer ou retrouver la connaissance de quelque chose », avec ou sans l'aveu de sa connaissance. Nous reconnaissons une personne au loin lorsque nous nous rappelons que nous l'avons déjà vue auparavant ou que nous l'avons connue autrefois. Nous reconnaissons ses traits ou sa voix. Dictionnaire de Webster, 1828. Le seul moyen pour un adventiste laodicéen de reconnaître le message de la pluie de l'arrière-saison apparu le 6 septembre 2001, c'est de reconnaître qu'il a déjà vu la même manifestation de la puissance divine dans le passé. Le 11 août 1840, l'ange puissant de l'Apocalypse 10 est descendu, lorsque la prophétie du deuxième malheur de l'islam s'est accomplie. Cette histoire s'est parfaitement répétée lorsque, le 11 septembre 2001, l'ange puissant de l'Apocalypse 18 est descendu, et que la prophétie du troisième malheur de l'islam s'est accomplie, et ne pas reconnaître l'islam du troisième malheur, c'est être emporté par l'âne sauvage d'Arabie jusqu'à la mort apportée par le lion de la Babylone moderne. Les ivrogniers d'Éphraïm, incapables de lire le livre scellé, ne peuvent pas discerner la répétition de l'histoire millérite, car cette reconnaissance repose sur la méthodologie de la pluie de l'arrière-saison, ligne sur ligne. L'idée que la manifestation de la puissance de Dieu dans l'histoire millérite se répète au dernier jour ne peut pas être étayée par la méthodologie du protestantisme apostat et du catholicisme poquet.
L'ange qui se joint à la proclamation du message du troisième ange doit illuminer la terre entière de sa gloire. Une œuvre d'ampleur mondiale et d'une puissance sans précédent est ici annoncée. Le mouvement de l'avènement de 1840-1844 fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Le message du premier ange fut porté à tous les postes missionnaires du monde et, dans certains pays, on observa le plus grand intérêt religieux qu'on ait constaté dans quelque pays que ce soit depuis la réforme du XVIe siècle. Mais tout cela sera surpassé par le puissant mouvement accompagnant le dernier avertissement du troisième ange. La grande controverse, 611.
les dirigeants aveugles d'Israël moderne sont forcés par leur méthodologie à rejeter la vérité selon laquelle il y aura une répétition de la manifestation de la puissance de Dieu dans les derniers jours, comme ce fut le cas autrefois.
Nous voyons ici que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, fut la première à subir le coup de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui Dieu avait donné une grande lumière et qui s'étaient tenus comme gardiens des intérêts spirituels du peuple, avaient trahi la confiance placée en eux. Ils avaient adopté la position selon laquelle il n'est pas nécessaire de rechercher des miracles ni des manifestations marquées de la puissance de Dieu comme au jour d'autrefois. Les temps ont changé. Ces paroles renforcent leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour visiter son peuple en jugement. » Ainsi, paix et sécurité est le cri d'hommes qui ne lèveront plus jamais la voix comme une trompette pour montrer au peuple de Dieu ses transgressions et à la maison de Jacob ses péchés. Ces chiens muets qui ne voulaient pas aboyer sont ceux qui subissent la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, jeunes filles et petits-enfants périssent tous ensemble. Témoignage, volume 5, 211.
L'aveuglement Laodicée 1 des hommes instruits qui gouvernent et non instruits de Jérusalem les empêche de reconnaître la pluie de l'arrière-saison. Car non seulement ils emploient une méthodologie biblique corrompue, mais les conclusions de leur faux raisonnement les placent dans une position où ils nieront toute manifestation future de la puissance de Dieu, comme autrefois. Pourtant, Malachie 3 indique que lorsque le messager de l'Alliance purifiera les fils de Lévi, alors l'offrande sera comme au jour d'autrefois.
Le témoin véritable déclare « Je connais tes œuvres, repense-toi et fais tes premières œuvres. C'est là la vraie épreuve, la preuve que l'Esprit de Dieu agit dans le cœur pour t'imprégner de son amour. Je viendrai à toi promptement et jetterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. L'Église est comme l'arbre stérile qui, recevant la rosée, la pluie et le soleil, aurait dû produire une abondance de fruits, mais sur lequel l'examen divin ne découvre rien d'autre que des feuilles. Pensée solennelle pour nos églises, solennelle en effet pour chaque individu. Merveilleuse est la patience et la longanimité de Dieu, mais à moins que tu ne te repentes, elles seront épuisées. Les églises, nos institutions, iront de faiblesse en faiblesse, de la froide formalité à la mort, tandis qu'elles disent « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Le témoin véritable dit « Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verront-ils jamais clairement leur état ?
Il y aura dans les églises une merveilleuse manifestation de la puissance de Dieu, mais elle n'agira pas sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur et n'ont pas ouvert la porte de leur cœur par la confession et la repentance. Dans la manifestation de cette puissance qui illumine la terre de la gloire de Dieu, ils n'y verront qu'une chose qu'ils tiennent, dans leur aveuglement pour dangereuse. Quelque chose qui éveillera leurs craintes et ils se raidiront pour y résister. Parce que le Seigneur n'agit pas selon leurs idées et leurs attentes, ils s'opposeront à l'œuvre. Pourquoi, disent-ils, ne connaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu, puisque nous sommes dans l'œuvre depuis tant d'années ? Parce qu'ils n'ont pas répondu aux avertissements, aux supplications des messages de Dieu, mais ont persisté à dire « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien ». Le talent et une longue expérience ne feront pas des hommes des canaux de lumière, à moins qu'ils ne se placent sous les rayons éclatants du soleil de justice et qu'ils ne soient appelés, choisis et préparés par l'effusion du Saint-Esprit. Quand des hommes qui s'occupent des choses sacrées s'humilieront sous la puissante main de Dieu, le Seigneur les élèvera. Il fera d'eux des hommes de discernement, des hommes riches de la grâce de son esprit. Leurs traits de caractère prononcés et égoïstes, leur obstination, seront mis en évidence à la lumière qui rayonne de la lumière du monde. Je viendrai à toi promptement, et jetterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Review and Herald, 23 décembre 1890.
La mort du prophète de Juda est représentée à la fois par le lion de Babylone moderne, qui est le symbole prophétique qui établit la vision de l'histoire prophétique, et aussi par l'âne. La première mention de l'islam dans les Écritures se fait lorsque Ismaël est présenté comme un homme sauvage.
Et il sera un homme sauvage. Sa main sera contre tout homme, et la main de tout homme sera contre lui. Et il habitera en présence de tous ses frères. Genèse 16-12.
La règle de la première mention dans les Écritures indique que toutes les caractéristiques du symbole y sont contenues. Car la parole de Dieu est une semence, et une semence possède tout l'ADN nécessaire pour mener à maturité la plante tout entière. Le mot traduit par « homme sauvage » est le mot désignant l'âne sauvage d'Arabie. L'âne sauvage dans les Écritures de vérité est l'un des symboles de l'islam. Le message d'Ézéchiel au chapitre 37, qui fait revivre les ossements desséchés, lesquels se dressent comme une armée puissante, est le message de l'islam du troisième malheur. Et ce message est celui du cri de minuit des derniers jours. Sir White enseigne directement que l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem représentait le message du cri de minuit.
La clameur de minuit n'était pas emportée par l'argumentation, bien que la preuve scripturaire fût claire et concluante. Elle était accompagnée d'une force impérieuse qui remuait l'âme. Il n'y avait ni doute ni remise en question. À l'occasion de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, les gens rassemblés de toutes les régions du pays pour célébrer la fête accoururent au mont des Oliviers et, en se joignant à la foule qui escortait Jésus, ils saisirent l'inspiration de l'heure et contribuèrent à faire retentir le cri « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Matthieu 21:9. De même, les incrédules qui affluaient aux réunions adventistes, les uns par curiosité, d'autres uniquement pour se moquer, ressentirent la puissance convaincante qui accompagnait le message. « Voici l'époux qui vient » Esprit de prophétie, volume 4, 250.
L'Apocalypse de Jésus-Christ est le message final dévoilé dans les derniers jours et il comprend l'islam du troisième malheur. Lorsque le Christ, qui est le message dévoilé, entra à Jérusalem et préfigura ainsi le cri de minuit des derniers jours, il fut porté, son message fut porté, par un âne. Le message final de la justice du Christ est porté par l'islam. L'islam était, est et sera un homme sauvage, comme le représente l'âne sauvage de Reju. Et tous ceux qui veulent voir, et ils sont nombreux à ne pas vouloir voir, peuvent facilement reconnaître que la guerre que mène actuellement l'islam est une folie furieuse. La volonté de se suicider, en croyant qu'il y aura une grande récompense sexuelle dans l'au-delà, est une folie satanique. La première mention de l'islam a indiqué que l'islam serait un homme sauvage. La guerre menée par l'islam rassemble toute l'humanité pour combattre l'escalade des hostilités du troisième malheur. L'islam est la logique prophétique de la mise en place d'un gouvernement mondial unique, et les mondialistes enseignent qu'ils ont délibérément ramené les Juifs sur la terre d'Israël après la Seconde Guerre mondiale afin d'utiliser la haine ancestrale de l'islam envers les Juifs pour déclencher une troisième guerre mondiale. Les mondialistes croient, et l'enseignent depuis des décennies, qu'ils auront besoin d'une troisième guerre mondiale pour instaurer leur gouvernement mondial unique. Les motivations corrompues des mondialistes, telles qu'ils les expriment eux-mêmes, s'inscrivent dans le rôle biblique de l'islam. Dans le verset où il est mentionné pour la première fois, l'élément peut-être le plus sérieux de l'ADN prophétique d'Ismaël est le fait que son esprit, qui est l'esprit d'un « homme sauvage », demeure en présence de tous ses frères. L'idée que seules certaines sectes de l'islam radical seront impliquées dans le troisième malheur ne concorde pas avec la parole de Dieu. La vision politiquement correcte selon laquelle il y a, dans toute confession religieuse, quelques brebis galeuses, et que la majorité des musulmans sont des citoyens épris de paix, n'est conforme ni à leur propre livre sacré ni à la Bible. Le Coran enseigne qu'il est du devoir de chaque fidèle d'Allah de mettre le monde entier en conformité avec la charia, et la première mention de l'islam dans le livre de la Genèse indique que l'esprit d'homme sauvage d'Ismaël sera présent chez chaque fidèle de l'islam. Le Coran enseigne directement à ses fidèles de feindre la décence lorsqu'ils vivent dans des régions où ils n'ont pas encore la capacité d'imposer leurs règles religieuses à la population, tout comme le catholicisme. Le prophète de Juda s'opposa à Jéroboam lors de l'inauguration de son royaume. Le protestantisme apostat commença en 1844 et fut immédiatement contesté par l'adventisme millerite, qui était entré dans le lieu très saint et avait découvert la loi de Dieu, y compris le sabbat du septième jour. L'adventisme millerite reçut l'ordre, comme le représente Jérémie, de revenir à Dieu, mais de ne jamais retourner à l'assemblée des moqueurs. Il fut dit au prophète de Juda de ne pas revenir par le même chemin qu'il avait pris, ni de manger ou de boire la nourriture du prophète menteur de Bethel. Mais il le fit. La mort du prophète de Juda fut symboliquement placée entre deux symboles, qui représentaient la papauté et l'islam. L'adventisme laodicéen ne peut pas voir ces deux vérités, car en 1863, il s'est crevé les yeux spirituels et a commencé le processus visant à occulter les joyaux ainsi que la méthodologie utilisée par William Miller afin d'établir les fondations de l'adventisme avec des pièces et des joyaux contrefaits, et selon la méthodologie du protestantisme apostat et du catholicisme. L'homme au balai à poussière balaye maintenant son sol, remet les joyaux en place et les donne à Miller pour qu'il les place sur sa table. Mais l'adventisme est aveuglé par la croyance selon laquelle ils sont le reste, le peuple qui a été suscité comme son peuple en 1844.
Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut, de ses pierres, susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est placée à la racine des arbres. Aussi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est abattu et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera complètement son air, il rassemblera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Matthieu 3, 9, 12.
Adventissem et laodicem sera vomi de la bouche du Seigneur, à l'exception de ceux qui se repentiraient. L'Adventissem et laodicem doit être enterré dans la même tombe que celle où repose le peuple de l'Ancienne Alliance qui a rejeté le message de Miller, car il constitue désormais, lui aussi, un ancien peuple de l'Alliance par rapport aux 144 000. La rébellion de 1863 est illustrée par le prophète venu de Juda, qui a aussi laissé une prophétie concernant le roi Josias. Nous poursuivrons cette étude dans le prochain article.
Au lieu de nous conformer au monde, nous devons devenir de plus en plus distincts du monde. Satan s'est allié et continuera de s'allier avec les Églises pour mener une manœuvre magistrale contre la vérité de Dieu. Tout ce que fait le peuple de Dieu pour gagner du terrain sur le monde suscitera une opposition résolue de la part des puissances des ténèbres. Le dernier grand conflit de l'ennemi sera des plus résolus. Ce sera la dernière bataille entre les puissances des ténèbres et les puissances de la lumière. Chaque véritable enfant de Dieu combattra vaillamment du côté du Christ. Ceux qui, dans cette grande crise, se rangent davantage du côté du monde que de Dieu, finiront par se ranger entièrement du côté du monde. Ceux qui deviennent confus dans leur compréhension de la parole, qui ne parviennent pas à voir le sens de l'Antéchrist, se placeront assurément du côté de l'Antéchrist. Il n'y a plus de temps maintenant pour nous assimiler au monde. Daniel se tient dans son lot et à sa place. Les prophéties de Daniel et de Jean doivent être comprises. Elles s'interprètent l'une l'autre. Elles donnent au monde des vérités que chacun devrait comprendre. Ces prophéties doivent être un témoignage dans le monde. Par leur accomplissement en ces derniers jours, elles s'expliqueront d'elles-mêmes.
Le Seigneur est sur le point de punir le monde pour son iniquité. Il est sur le point de punir les institutions religieuses pour leur rejet de la lumière et de la vérité qui leur ont été données. Le grand message, combinant les messages du premier, du deuxième et du troisième ange, doit être donné au monde. Tel doit être le fardeau de notre œuvre. Ceux qui croient véritablement en Christ se conformeront ouvertement à la loi de Jéhovah. Le sabbat est le signe entre Dieu et son peuple, et nous devons rendre visible notre conformité à la loi de Dieu en observant le sabbat. Il doit être la marque de distinction entre le peuple élu de Dieu et le monde. Être fidèle à Dieu revêt une grande importance. Cela comprend la réforme sanitaire. Cela signifie que notre alimentation doit être simple, que nous devons pratiquer la tempérance en toutes choses. La grande variété de mets qu'on voit si souvent sur les tables n'est pas nécessaire, mais elle est hautement nuisible. L'esprit et le corps doivent être préservés dans le meilleur état de santé. Seuls ceux qui ont été formés dans la connaissance et la crainte de Dieu devraient être choisis pour assumer des responsabilités. Ceux qui sont depuis longtemps dans la vérité et qui pourtant ne peuvent distinguer entre les principes purs de la justice et les principes du mal, dont l'intelligence en ce qui concerne la justice, la miséricorde et l'amour de Dieu est obscurcie, devrait être déchargée de responsabilité.
Dieu a d'importantes leçons à enseigner à son peuple. Si ces leçons avaient été apprises plus tôt, sa cause n'en serait pas là aujourd'hui. Une chose doit être faite. On ne doit pas retenir la vérité aux ministres ni aux hommes occupant des postes de responsabilité par crainte de s'attirer leur mécontentement. Des hommes qui, avec douceur et sagesse, déclarant tout le conseil de Dieu, doivent être associés à nos institutions. La colère de Dieu s'enflamme contre ceux qui, dans la sécurité charnelle et l'orgueil, ont manifesté du mépris pour sa direction. Ils mettent en péril la prospérité de la cause.
Toute voix mensongère est une tromperie. Et si elle est maintenue, elle finira par conduire à la destruction. Ainsi, le Seigneur permet que ceux qui maintiennent de faux desseins soient détruits. Au moment même où s'élèvent les louanges et les adulations, une destruction soudaine survient. Il en est qui, tout en sachant les réprimandes reçues par d'autres à cause de leur infidélité, se détournent de l'avertissement. Ceux-là sont doublement coupables. Ils connaissaient la volonté du Seigneur et ne l'ont pas accomplie. Leur châtiment sera proportionné à leur culpabilité. Ils n'ont pas voulu prêter attention à la parole du Seigneur. Collection Cress, 100 sec, 106.